Afrique Midi avec Nicolas Sûr.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
La planète est au bord du gouffre. La mise en garde du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'occasion de la publication du rapport annuel de l'Organisation météorologique mondiale, dont les conclusions sont catastrophiques. Élévation du niveau de la mer, recul des glaciers et record de chaleur. 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde et de nouveaux records pourraient bien être battus en 2024. D'ailleurs, en ce moment, l'Amérique du Sud étouffe. À Rio de Janeiro, au Brésil, le thermomètre indiquait le week-end dernier 42 degrés avec un ressenti atteignant les 62 degrés. Plus de 42 degrés en Patagonie, c'est une première. Record de température également en Asie, mais aussi sur le continent africain. Vous avez pu entendre les différents reportages de nos correspondants, notamment au Congo-Brazzaville, où il fait ces jours-ci 36 degrés au lieu des 29-30 habituellement cette saison. On a également relevé près de 36 degrés à Franceville, au Gabon, et même 45 degrés à Djouba, au Soudan du Sud. Alors, comment vivez-vous avec ces températures extrêmes? Quelles en sont les conséquences dans votre vie quotidienne? Comment votre pays s'adapte-t-il au dérèglement climatique? Vous nous appelez, vos témoignages évidemment nous intéressent. 33 9 693 693 70 et vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Il y a par exemple Christ qui nous a écrit de Brazzaville. Il nous dit: en ce moment, les températures avoisinent les 40 degrés tous les jours. On a comme l'impression d'être dans un pays désertique, pays sahélien, alors que le Congo-Brazzaville abrite le bassin du Congo, le deuxième plus grand poumon écologique au monde. Bonjour Fidèle.
Bonjour Juan.
Vous êtes également à Brazzaville, Fidèle.
Je suis à Brazza, Juan.
Et les températures battent des records, vous disiez au standard. Nous vivons sous de fortes chaleurs en ce moment.
Je vous assure, il fait extrêmement chaud. Bon, la différence avec les années passées où il faisait aussi chaud, mais sauf que ces derniers temps, il y a une succession des jours où il fait extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Donc, les habitudes ont changé. Bon, le comble, c'est que au moment où il fait très chaud, il y a des quartiers qui vivent pendant 2-3 semaines sans eau et il y a coupure d'électricité et les habitants ont changé d'habitude. Ils sont obligés de rester dans les rues pendant des heures jusqu'à minuit, une heure, parce que les maisons chauffent extrêmement. Et vraiment, c'est difficile.
Vous-même, vous êtes confronté, Fidèle, à des coupures d'eau et d'électricité?
Exactement. Mmh. C'est à peine avant-hier que l'eau a commencé à couler encore dans les pompes. Nous sommes restés une semaine sans eau. C'est inexplicable.
Une semaine sans eau alors qu'il fait 36-40 degrés. Christ, en tout cas, Brazzaville parle de 40 degrés. Est-ce qu'il y a tout de même des distributions d'eau potable mises en place par les autorités?
Il n'y a jamais eu de services comme ça dans notre pays. Au contraire, la population est vouée à elle-même. Heureusement qu'il y a certaines personnes qui ont des forages. Et à ce moment-là, les populations vont prendre des bouteilles d'eau. Mais finalement, une semaine, se laver, alors qu'il fait extrêmement chaud, vraiment, c'est difficile. Bon, ce qui est vrai, c'est que je suis aussi dans un quartier où je ne vois pas d'arbres aussi. À Mongali, ici, par exemple, il n'y a pas assez d'arbres. Bon, vraiment c'est difficile. Ouais.
Il n'y a pas. Alors, vous n'êtes pas le seul à constater qu'il n'y a pas assez d'arbres. Il y a par exemple Lucien qui nous écrit d'Abidjan. Lui nous dit les arbres sont systématiquement abattus. Le moindre espace vert est systématiquement couvert de béton, contribuant à la surchauffe. La protection de l'environnement ne fait l'objet d'aucune communication sérieuse. J'ai très mal pour mon continent, nous dit cet auditeur, et surtout pour mon pays. Quelle tristesse. Donc, voyez, le constat est général. Il ne faut pas non plus généraliser, mais en tout cas, vous dites qu'à Brazzaville, il n'y a pas suffisamment d'arbres, et Lucien Abidjan constate exactement la même chose. Fidèle, bon courage.
Merci Juan, merci vraiment. Il faudrait que... on ne comprend pas pourquoi ces changements, alors que nous avons toujours vécu comme ça, mais vraiment c'est difficile.
Ces changements, ils sont dus justement au réchauffement climatique, à l'activité humaine.
Justement, mais les activités humaines ne sont pas vraiment intenses dans notre pays. À moins qu'il y ait peut-être construction des maisons qui remplacent les arbres qui étaient dans des parcelles. Oui. Mais sinon, vraiment, il y a suffisamment de cours d'eau partout, mais ça chauffe.
Ouais, ça chauffe. En tout cas, Josué nous rejoint. Lui, il est agriculteur. Il est au sud du Tchad. Bonjour, Josué.
Bonjour, Juan, et bonjour à toute l'équipe d'actualité et les fidèles auditeurs de Mundo.
Mundo, vous êtes nombreux à nous appeler de Mundo. C'est vrai que vous êtes fidèles sur place. Josué, vous disiez au standard, donc être agriculteur est forcément très inquiet car il pleut de moins en moins dans votre région.
Effectivement, les trois dernières années, dû au changement climatique, il pleut de moins en moins et il fait vraiment très chaud ici. Et pour, par exemple, aller au champ, il faut sortir très tôt le matin pour aller au champ, labourer à partir de midi. Déjà, vous ne pouvez pas rester au soleil. Et là, on est obligé d'aller se réfugier à l'ombre et que vers la soirée pour revenir cultiver. Donc, le changement climatique ici, ça, c'est palpable sur le terrain. Et c'est difficile pour agriculteurs de faire les activités agricoles puisque le rendement, même on ne voit pas le rendement. Les arbres fruitiers qui donnent des fruits avant ne donnent plus aujourd'hui. Donc c'est réel, c'est ce que nous vivons au sud du Tchad pour le moment, M. Roy.
Donc moins de pluie, ce qui signifie donc sécheresse, baisse des rendements, vous produisez moins de fruits et donc par ricochet, baisse de vos revenus.
Effectivement, Juan, parce que vous sortez le matin pour travailler, même déjà le temps de travail est réduit. Parce qu'à midi, vous ne pouvez pas travailler sous le soleil, 40, 45 degrés. À l'ombre déjà. Donc, vous ne pouvez même pas travailler avec cette température. Donc, vous êtes obligé de sortir très tôt le matin pour aller au champ. Et à midi, le travail s'arrête et il faut recommencer le soir. Donc, le rendement, même déjà en termes de productivité, ça ne donne pas. Et la terre ne produit pas comme avant ce que nous constatons en ces derniers temps.
Et donc, du coup, Josué, que pouvez-vous faire, vous, en tant qu'agriculteur ?
Oui, ici, parce qu'en tant qu'agriculteur, les moyens sont limités. Oui. On ne peut que subir. Donc, on attend beaucoup plus du gouvernement, mais là même, le gouvernement ne fait pas. Il y a la semaine des arbres qui est lancée au Tchad, mais on voit que cette semaine est restée dans la phase théorique. On plante, mais on n'entretient pas ces arbres. Donc, juste après avoir planté, ces arbres la meurent. Donc, en tant qu'agriculteur, nous sommes limités. Nous savons à quel sein se vouer.
Vous produisez quels fruits, Josué, exactement ?
Le produit agricole ici au Tchad, les sorgos, le mil, maïs et autres, c'est ça le plus souvent que nous cultivons ici.
Ah d'accord, comme vous parliez de fruits, je pensais que c'était des fruits, des fruits comme, je ne sais pas, des pommes, des poires ou autre chose.
Les fruits ici, je parlais de fruits, les manguiers ne produisent pas comme avant.
Ouais. Oui. D'accord, c'est un exemple concret. Merci Josué en tout cas de ce témoignage et de votre confiance et bon courage donc à Mundu. Je vous lis le commentaire d'Abdoulaye à Bamako. Il fait carrément chaud au Mali, je n'ai jamais eu aussi chaud. Berthe également à Bamako nous dit, avant c'était le mois d'avril qui était le plus chaud au Mali, mais cette année nous ressentons la chaleur depuis la fin février et surtout en ce mois de Ramadan, la chaleur nous fatigue et pour ne rien arranger, des pénuries d'eau sont observées dans plusieurs localités du pays. 33 9 693 693 70. Lui aussi nous a envoyé un petit message sur WhatsApp. Nous l'avons rappelé. Bonjour Gladys. Non, t'avais dit à la fin, Gladys. Ah, non. Bon, alors qui avons-nous au standard ? On va le rappeler. Bienvenue. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Juan.
Oui, soyez le bienvenu. Bienvenue. Vous êtes originaire de la Centrafrique.
Oui, originaire de la Centrafrique.
Et vous souhaitiez justement nous parler de la situation climatique dans votre pays.
Oui, c'est bien cela. La situation climatique, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure au début de l'émission, comme quoi le monde entier risque de battre le record de la chaleur de 2023. Et la répercussion sur le continent africain est très 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 importante parce qu'un pays comme la République centrafricaine qui fait partie du bassin du Congo, ce pays en ce moment, j'ai des parents là-bas, j'ai des frères, des amis qui sont là-bas, qui suffoquent en ce moment. Il fait tellement chaud que les gens n'arrivent pas à supporter cette chaleur. Vous imaginez que dans ce pays-là, par exemple, l'État n'a pas les moyens, comme dans les autres pays développés, pour essayer de répondre à ses besoins. L'électricité coupe à chaque fois. Vous imaginez que, l'action de la température sur l'alimentation, ça veut dire que les gens, deux fois ce qu'ils mangent, sont déjà pourris. Les vaccins qui sont conservés ne sont pas conservés dans les bonnes conditions. Et donc, en ce moment, la Centrafrique, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Au niveau de l'Afrique centrale, je vais dire, hein, et partout dans le monde entier, là où la température augmente énormément. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Chirac l'avait dit au COP en Afrique du Sud, notre maison brûle. Notre maison brûle. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question, c'est ça. Permettez-moi, l'année dernière, Macron a été au Gabon. Il a parlé de l'argent, 100 milliards, pour essayer d'aider ces pays de bassin de Congo qui captent énormément de CO2. Mais jusque-là, est-ce qu'il y a eu cet argent décaissé?
C'est une bonne question que vous posez. On peut la poser à la rédaction de RFI et avoir les explications demain ou dans les prochains jours, effectivement. Et pour ne rien arranger, moi qui connais un tout petit peu la Centrafrique, vous parliez des pénuries d'eau, pénuries d'électricité, il y a aussi des pénuries de gaz. Et donc, beaucoup de gens sont obligés d'aller couper du bois pour... chauffer leur alimentation.
C'est le déboisement, là, le déboisement complètement. Donc, ça fait que le désert avance en Centrafrique. Et là, c'est encore plus grave, ce que vous venez de dire. Est-ce que ces pays-là peuvent... La Centrafrique peut avoir les moyens, par exemple, de changer la mentalité pour que les gens puissent avoir le gaz pour cuisiner et avoir les gaz. Mais est-ce qu'ils ont les moyens pour payer? C'est ça aussi. C'est véritablement... C'est un problème qui dépasse. Il faut une conscience générale au niveau mondial. D'aider ces pays-là.
Et pourtant, Bani nous dit sur WhatsApp, ne pensez-vous pas que les mesures de lutte contre le dérèglement climatique qui sont annoncées depuis la conférence de Stockholm dans les années 70 doivent être appliquées dans les plus brefs délais? Eh bien, la réponse est oui. Il faut appliquer les mesures adoptées lors des différentes COP. Bienvenue. Merci en tout cas de nous avoir interpellés sur la situation en Centrafrique. Je vous disais que Gladys nous avait envoyé un petit message sur WhatsApp. Eh bien, on l'a rappelé. Gladys nous disait « Le réchauffement climatique est une réalité dans mon pays, la Guinée. » Bonjour, Gladys.
Oui, bonjour.
Vous êtes dans la capitale. Vous souhaitiez témoigner. On vous écoute.
Ok. Je disais que... Le réchauffement climatique est une réalité en Guinée. En voyant les feux de brousse qui s'étendent, les cours d'eau et les fleuves qui tarissent, la température qui augmente de jour en jour, les océans qui détruisent les plages et pénètrent à l'intérieur du pays, ça, c'est une réalité en Guinée.
Et donc, du coup, Gladys, comment vous adaptez-vous à ces changements? Est-ce que vous en avez la possibilité ou est-ce que vous subissez, comme le disait tout à l'heure un auditeur du Tchad?
Franchement, on subit à aucune réalité parce que nos autorités ont fait de beaux discours concernant la lutte contre le changement climatique. Mais en réalité, il n'y a pas d'effet pratique parce que les effets sont presque éphémères. C'est seulement une tentative, après il laisse. Or pourtant, la lutte contre le changement climatique, c'est un long processus. Il faut suivre de près. Ouais. Et vous faites seulement peut-être une petite activité et que vous laissez, je sais qu'il n'y aura pas d'effet. Ouais.
Mais vous constatez autour de vous, Gladys, une prise de conscience? Je dis ça parce que je voyais sur WhatsApp un auditeur qui disait, mais vous savez, dans nos pays, sur le continent africain, on n'en fait pas assez pour lutter contre le dérèglement climatique. C'est le cadet des soucis de nos dirigeants. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que c'est cela ou est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience aussi bien à la fois des dirigeants que de la population?
Bon, en Guinée, pratiquement, il n'y a pas une prise de conscience parce que d'autres même voient le changement climatique comme un problème divin. Or, pourtant, c'est un problème divin.
Divin.
Un problème divin, un problème qui vient de Dieu. Mmh. Or, pourtant, ce sont nos activités, nos propres activités sur la nature qui est en train de dégrader nos végétations et provoquer le changement climatique. Ouais. Surtout nous qui sommes en Guinée, nous sommes dans un pays minier où il y a une centaine d'entreprises minières qui sont là à exploiter les mines, et aucun reboisement et aucun suivi des sociétés environnementales. Ouais. Les sociétés environnementales existent bien sûr sur le papier, mais il ne faut pas de pression sur les sociétés minières afin qu'ils puissent reboiser ou lutter contre le réchauffement climatique.
Le dérèglement climatique.
le règlement climatique.
Gladys,
donc, ce qui est un grand problème pour nous.
Merci en tout cas de nous avoir contactés via WhatsApp et merci de ce témoignage. Rachid, lui aussi, nous a écrit de Guinée. Il nous dit « C'est du jamais vu dans ma ville natale de Dinguiraye. À 13h, nous avons enregistré 45 degrés et en 10 jours, nous n'avons eu qu'une seule fois de l'eau dans les robinets. » Ah oui, 45 degrés et un peu d'eau dans les robinets, effectivement, voilà du concret. 9h55 à Paris, d'autres témoignages au standard. Bonjour Andy.
Oui, bonjour René, bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde. Ça se fait particulier à Madame Nathalie Amar. Je l'ai encore écoutée ce matin et j'étais émerveillé comme d'habitude.
Ah bah écoutez, Nathalie Amar est dans les couloirs, elle doit vous écouter. Mais si je la croise, je lui transmettrai vos amitiés, ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Andy, vous disiez, il fait extrêmement chaud en ce moment à Kinshasa.
Il fait extrêmement chaud actuellement à Kinshasa. Mais à côté de cela, pénurie d'eau, pénurie d'électricité. C'est vraiment compliqué actuellement pour les Chinois de vivre. Mais à côté de ça, les Chinois ont eu une idée ingénieuse de nous imposer un commerce des petits ventilateurs. Des tout petits ventilateurs qui se vendent comme des petits pains. Il y a tout le monde qui veut l'acheter. Mais ce qui nous concerne généralement, en tout cas, la vie est devenue très compliquée avec cette chaleur accablante. Mmh.
Et chaleur accablante, on parle de 35, 36, 37 degrés. C'est inhabituel pour un mois de mars.
Oui, c'est vraiment inhabituel. C'est vraiment inhabituel dans une ville où la majorité de la population est pauvre. On nous demande de ne pas faire beaucoup d'efforts physiques, mais les gens sont obligés de faire des travaux manuels pour survivre. On nous demande de prendre beaucoup d'eau, mais l'eau ne coule pas au robinet. Et les soirs, lorsqu'on rentre à la maison, il fait extrêmement chaud, il n'y a pas de courant, pas moins d'utiliser les ventilateurs, pas moins d'utiliser les climatiseurs. Donc c'est vraiment compliqué. Et la vie est devenue vraiment compliquée avec cette chaleur. Par contre, aujourd'hui, il fait un peu beau, vu qu'il y avait la pluie hier. Et aujourd'hui, c'est quand même bon.
D'accord, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a Matendo qui nous dit « Nous sommes en pleine canicule à Kinshasa. Imaginez une ville comme la nôtre où les voies de distribution d'eau sont vétustes. L'entreprise qui est chargée de desservir l'eau potable peine à peine à couvrir toutes les communes de Kinshasa. On peine à vivre sous 36 degrés à l'ombre. Nous vivons des jours difficiles. » Voilà ce que nous dit cet auditeur. Andy, bon courage. Merci d'avoir appelé. Qu'avons-nous pour terminer ? Sana, alors, on retourne à Conakry. Bonjour Sana.
Bonjour Gomez et bonjour à vos millions d'auditeurs à travers le monde.
Vous confirmez ce que disait l'un de vos compatriotes il y a 5 minutes. Il fait très très chaud en ce moment à Conakry.
Il fait extrêmement chaud. Je confirme ce qu'il dit à Zahir. Je encore reconfirme pour dire que ce qu'il est en train de dire, bon, ça doit être à la base, parce que naturellement, ici, en Guinée, on pense que c'est un problème divin. C'est ce qu'il dit, c'est la vérité. Quand il y a trop de soleil, on dit oui, c'est Dieu qui a dit cela, oubliant qu'aujourd'hui, à Conakry, les arbres, les eaux qui sont là, ils ne se font que pousser pour construire. C'est pourquoi, d'ailleurs, si vous constatez, Gomez, la dernière fois, il y a eu l'inondation ici, c'est parce que les gens ont poussé de l'eau. Sinon, Conakry, naturellement, il ne fait pas extrêmement chaud comme ça. Il y a déjà 10 ans, sur mon constat, il n'y a jamais eu un tel salaire. S'il n'y a pas de courant, vous ne pouvez pas rester même dans 30 minutes juste dans la maison, tellement qu'il fait extrêmement chaud.
Ouais. Et donc, comment faites-vous, Sana, pour vivre? Si vous dites il n'y a pas de courant, il fait trop chaud, ça a un impact forcément sur votre quotidien et même sur votre santé, peut-être?
Oui, sur notre santé. Actuellement, dès que le courant part, vous êtes obligé de cesser les arbres pour vous réfugier là-bas en un peu de temps. Surtout nous qui menons des activités sur le terrain. À partir de 12h, vous ne pouvez plus faire une activité. Alors que c'est le mois de Ramadan, vous êtes épuisé, le soleil est extrêmement trop. Mais non, on ne peut pas décrire le degré du soleil actuellement.
Merci Sana, en tout cas, de ce témoignage. Et puis, il y en avait d'autres, des témoignages. On peut continuer, si vous le souhaitez, demain à en parler. Demain, nous serons vendredi, et vous connaissez le principe, la libre antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. Vous nous interpellez sur tous les sujets. Aucun thème n'est tabou, donc profitez-en. Et c'est l'occasion, si vous le souhaitez, évidemment, de nous interpeller sur des sujets qui ne font pas la une de la presse internationale. Le standard reste donc ouvert. On vous attend également sur nos réseaux. N'oubliez pas notre chaîne WhatsApp, les coulisses, les quiz et des informations complémentaires sur l'actualité.
Crédit Express de Banque Atlantique vous a proposé appel sur l'actualité. Banque Atlantique. Grandir ensemble.
Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Juan.
Dans 10 minutes, priorité santé. Gros plan ce matin sur la tuberculose.
Oui, cette maladie infectieuse a encore tué plus d'un million de personnes, 1 300 000 en 2022. À ce chiffre s'ajoutent les 10 millions d'autres personnes qui ont contracté une tuberculose active. D'où l'importance d'en rappeler les symptômes les plus courants, les facteurs de risque qui rendent plus vulnérables. Dans l'émission, des spécialistes parleront prévention, diagnostic, traitement et bien sûr vos témoignages et vos questions en direct.
Juste après le journal.